Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Alors, contre-histoire, la semaine dernière, si vous avez le podcast que j'ai mis en ligne il y a 8 jours, contre-histoire nous raconte comment a été assassiné le juge François Renault dans les années 70. Nous avons donc une victime, un juge très à gauche et très gênant forcément. Et puis nous avons des suspects, un groupe, je dirais un bataillon, appelé SAC, Service d'Action Civique. Service d'Action Civique au service du général de Gaulle et de tous les gouvernements qui se sont réclamés du gaullisme, le beau temps de Giscard d'Estaing, Pompidou, etc. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette recherche, Benoît Colomba et Étienne Davodeau vont nous emmener rencontrer des gens et découvrir des tas de choses pas propres. Nous cherchons donc à rencontrer Marie-Françoise Miro. Elle a rencontré François Renault en 1945 à la fac de droit de Lyon. Ils étaient étudiants, ils ne se sont jamais perdus de vue. Elle fut celle qu'il appelait son meilleur copain et la première à l'avoir surnommé le shérif. Elle a quelque chose à nous dire qu'elle n'a jamais révélé. Et on voit Davodeau et Colomba qui arrivent chez Marie-Françoise. Marie-Françoise, elle a une bonne soixantaine d'années. Et elle demande « Vous allez me dessiner ? J'ai pas envie d'être photographiée. Attendez, voilà. S'il vous plaît, dessinez-moi à partir de cette photo. J'étais beaucoup plus jeune. » François et moi, on se voyait souvent. Un matin de l'été, il me téléphone et me dit « Je voudrais déjeuner avec toi. J'ai quelque chose à te raconter. » Je vois le ministre Jarrot lundi. Et ça va péter. Voyons-nous vendredi. D'accord ? Et vendredi, c'est le jour où il a été enterré au cimetière du Père-Lachaise.
Il revient dans mes mémoires des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Et Benoît Colomba demande André Jarrot, c'était le ministre de la qualité de la vie, non? Et Marie-Françoise, c'était surtout le supérieur de François. Pendant la résistance, il se faisait confiance. « Qu'avez-vous pensé en apprenant son assassinat ?» demande Étienne. « J'ai pensé qu'il avait approché de trop près la vérité sur une question importante pour le parti au pouvoir. » Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait utilisé cette expression « ça va péter » Après la mort du juge, Robert Badinter devient l'avocat de la famille. nommé par le ministre de la Justice en 1981, il passe le relais à son jeune confrère Yves Bismuth. Yves Bismuth qui nous explique « C'était bien sûr ma première grosse affaire. Je faisais aussi partie de ceux qui pensaient que pour comprendre cet assassinat, il fallait suivre le fil rouge du fric. » Je le déclare d'ailleurs à la télévision et aussitôt, mon cabinet est incendié. Je vous ai sorti les articles d'époque. C'est quoi ces étranges visites citées en fin de l'article ? On lit l'article « Intimidation, le feu chez l'avocat de la famille du juge Renaud ». Rebondissement dans l'affaire du juge assassiné, le cabinet de l'avocat qui défend les intérêts de la famille, celui de Maître Bismuth et Langrand, est partiellement détruit par un incendie criminel. Le dossier Renaud est-il visé ? L'hypothèse du pur vandalisme semble écartée par les enquêteurs qui croient plutôt à une mesure d'avertissement. Il faut se rappeler que le cabinet de l'avocat avait déjà reçu d'étranges visites en janvier dernier. Mon bureau avait effectivement été cambriolé avant cet incendie. Quelqu'un cherchait quelque chose. Le dossier Renaud. Mais il n'était pas là. Je le conservais dans le coffre d'une banque. J'étais jeune, mais pas fou. La vraie question qui reste est celle-ci. Pourquoi des moyens exceptionnels n'ont-ils jamais été consacrés à cette affaire exceptionnelle ? En janvier 1977, un an et demi après la mort du juge Renaud, sort sur les écrans français un film d'Yves Boisset intitulé « Le juge Fayard, dit le shérif » avec Patrick Devers. L'histoire d'un magistrat intraitable sur le point de révéler les liens financiers entre le parti au pouvoir et le milieu. Il le paiera de sa vie. Le tournage se passe à Saint-Étienne, à 60 km de Lyon. Tourner à Lyon, c'était impossible, nous dit Yves Boisset, qui est arrivé dans la BD. Il nous dit ça en 2014. Et il garde la parole. Les flics lyonnais m'avaient fait comprendre qu'ils seraient incapables de protéger le tournage et surtout de me protéger. J'ai été accueilli à bras ouverts par ceux de Saint-Étienne qui détestaient leurs collègues lyonnais. Oui, les gens qui connaissent pas cette région, peut-être qu'ils ne savent pas les sales coups que sont capables d'échanger les Lyonnais et les Stéphanois. Mais au bout de 5 ans de vie à Saint-Étienne, j'ai éprouvé la chose, j'ai éprouvé la situation. Curieusement, Renaud, je l'avais croisé en Afrique dans les années 60, continue Yves Boisset. Il réorganisait les services juridiques du Sénégal. Il avait déjà des méthodes assez directes. Les Africains le surnommaient le juge bâton. En 1975, je viens à Lyon présenter le film. Des journalistes me racontent son histoire. Ça m'a tout de suite fascinée. J'ai commencé à faire des recherches. Pour quelqu'un de curieux et d'honnête, rapidement, il n'y a pas de doute sur la dimension politique de cet assassinat, derrière lequel on trouve vite le sac, cher à M. Pasqua. J'ai pu rencontrer des proches du gang des Lyonnais, et même un des assassins présumés du juge. Il m'avait donné rendez-vous dans un bistrot. « Vous connaissez Monsieur Cheval ?» C'était un faux nom, bien sûr. Et le barman ? « Non, je ne connais pas. Mais lui là-bas, avec le journal, il le connaît peut-être. » Et Benoît Colomba, qui va rencontrer le Monsieur Cheval en question. « Monsieur Cheval ?» Et l'autre, sans sortir son nez de son journal. « Vous avez les 5 000 francs ?» C'était le tarif. Le mec ne se présente pas comme l'un des tueurs, mais comme quelqu'un qui les connaît bien. Et il me raconte en détail comment le juge a été abattu. D'un point de vue cinématographique, c'était passionnant. Par exemple, il me raconte comment, en tombant, le juge a renversé des poubelles. Ça figure dans mon film. C'est pour ça qu'ensuite, les juges qui ont mené l'instruction sur la mort de Renaud m'ont convoqué. Il voulait savoir comment je connaissais ce détail qui n'avait jamais été divulguée. Le type, c'était Jean-Pierre Marin, qui fut effectivement soupçonné d'être un des trois tueurs de Renault. Il a été flingué par la police dans un guet-apens très peu de temps après notre rencontre. Cette mort rapide a arrangé pas mal de gens, paraît-il. Une autre anecdote édifiante, nous tournons une scène de nuit. Les gars des renseignements généraux sont là, mais ils ne nous gênent pas. L'acteur Marcel Bozoufi joue le rôle de Pierre Pourra, un voyou, membre du gang des Lyonnais, et recherché par toutes les polices. Soudain, un inspecteur des RG s'approche de moi. RG, renseignements généraux, donc. « Dites, monsieur Boisset, il y a un truc qui va vous amuser. Vous voyez le mec là-bas, au fond? Sa tête ne vous dit rien ?»«
Lui, non. »
« Enlevez-lui ses lunettes, son chapeau et sa moustache. Ça vous dit toujours rien ?»«
Bah, non. »
« C'est Pierre Pourra. Ça doit l'intriguer de voir quelle image vous allez donner de lui dans le film. »«
Pourra ? Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter ?»«
Lui ? Eh ben, non. On ne peut pas y toucher.
Il est du sac. »
Bien entendu, le sac a attaqué le film en justice. On a été condamné à retirer toute référence à cette organisation. La sentence est tombée juste avant la sortie du film. Alors, avec le chef monteur, on a fait le tour de toutes les salles de Paris pour poinçonner la bande sonore là où dans les dialogues le mot « sac » était prononcé. À la place, ça faisait désormais « bip ». La presse en a parlé. Et il s'est passé un truc formidable dans les salles. Quand ce « bip » retentissait, les spectateurs criaient « Le sac, le sac !» Ça démultipliait l'impact du film.
J'ai été pas mal menacée quand même, nous répète Yves Boisset.
On a martelé ma bagnole à coups de barre de fer. Toutes les vitres ont été brisées, sauf celle du conducteur, qui avait été bombée, bip bip. J'ai moi-même été tabassée devant la porte de mon immeuble. Mais le pire, c'était pas ça. Le pire, c'était les menaces sur mes enfants. Je recevais des appels anonymes où on citait leur prénom et l'école qu'ils fréquentaient. Ça, c'était terrifiant. Juste après, j'ai tourné le Taxi Mauve en Irlande. Alors, j'ai installé mes enfants dans une ferme fortifiée de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Je me disais que si même l'armée anglaise ne parvenait pas à toucher ces endroits-là, les guignols de Pasqua et du Sac n'y arriveraient pas non plus. Plus tard encore, la commission parlementaire qui enquêtait sur le Sac m'a demandé de venir raconter ce que je savais sur le sujet. On m'a informé qu'on viendrait me chercher à mon domicile. Effectivement, les flics viennent me chercher avec deux bagnoles. On traverse Paris, toute sirène hurlante. Impressionnant. Je témoigne devant une dizaine de parlementaires. Je réponds à leurs questions. À la fin, ils me félicitent pour mon courage et un huissier m'accompagne à la sortie. Et c'est tout. Haute protection à l'aller et métro en solitaire au retour. Une fois que tu as témoigné, t'es bien moins important, hein?
J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous l'autre ciel. Mais combien je leur préfère mon ciel pur, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance.
Pour conclure ce chapitre, nous avons tenu à donner la parole à quelqu'un qui a vécu ces événements au plus près. François Renault est le fils du juge assassiné.
Il nous donne rendez-vous à Paris. Il n'a jamais renoncé à défendre la mémoire de son père. Beaucoup de gens se demandent pourquoi, se sachant menacé, le juge Renaud ne portait pas une arme. Et le fiston qui répond « Il y a une bonne raison à ça ». À la demande de sa hiérarchie, il s'était résigné à ressortir son arme, un vieux 7,65 datant de la guerre. Un an avant sa mort, à bord de sa fameuse BM jaune, il a un accrochage avec une voiture qui pile devant lui. Se pensant agressé, il jaillit, l'arme au poing. Mais l'autre le désarme instantanément d'un coup de pied bien placé. La tension retombe, on s'explique, c'est une fausse alerte. Le gars est un bon père de famille et un karatéka confirmé. Cet incident a marqué mon père. En rentrant, il me dit « Bon Dieu, j'ai failli tuer un brave type. Tu te rends compte? S'il ne m'avait pas désarmé ?» Et il a définitivement rangé son arme. Pardon de vous imposer ça, mais pouvez-vous nous raconter la veille de sa mort? Bien sûr. Le temps a passé. Je n'ai plus de problème avec ça. Presque 40 ans après, ce moment reste très net dans ma mémoire. C'est le soir. On est seul dans notre appartement, de la montée de l'observance. Revenons à la soirée, à la dernière soirée du juge Renaud, où il prévient son fils en quelque sorte. « Fiston, il faut que tu saches. Je suis actuellement à un tournant de ma vie. Grosse affaire, pour laquelle il est possible que je me fasse flinguer. » Et les journalistes qui demandent « Et là, vous mesurez la portée de ce qu'il vous dit ?»« Absolument pas. Il faut se remettre dans le contexte. J'ai 20 ans. Je vis sur la vague un peu magique des années 70. J'écoute Jimi Hendrix dans ma piole, ambiance chemise à fleurs et cheveux longs, tout ça me passe complètement au-dessus de la tête. Et puis, à ma décharge, comme pas mal de gens, j'ai l'impression que ce père est fort, puissant, indéboulonnable. Il vit à 100 à l'heure, il prend des risques. Bref, rien ne peut lui arriver. Vous n'êtes pas surpris par cette phrase? Ce qui est inhabituel, c'est qu'il me parle de son travail. Il ne le faisait jamais. Donc il est inquiet. Oui, il y a quelque chose de sérieux. Et avec le recul, cette grosse affaire dont il parle, pour moi, ça ne peut être que le hold-up de Strasbourg. À l'époque des grosses affaires, il n'y en a pas 36. Imaginez le scandale cosmique si cette affaire était sortie. Des hold-up finançant le parti politique au pouvoir. La Poste de Strasbourg, c'était de l'argent public en plus. C'était comme mettre un flingue sur la tempe de chaque Français pour le braquer. Imaginez le séisme à ce moment où la gauche était très réactive et les conséquences sur l'image de la France à l'étranger. Et concernant le rôle qu'aurait joué le gang des Lyonnais dans l'assassinat de votre père, quel scénario vous semble le plus probable? Le gang des Lyonnais, finalement, c'est la rencontre entre deux générations. Il y a les seniors et les juniors. Les seniors sont issus de la résistance, puis de la guerre d'Algérie. Ils sont proches du sac. Les juniors, c'est Edmond Vidal et son équipe. Ils roulent pour eux-mêmes. Ils sont très soudés. Parfois, par l'intermédiaire des seniors, ils se mettent au service du sac. C'est le cas pour le hold-up de Strasbourg. C'est ce système-là qui a tué mon père. C'est ce qui explique que les seules cérémonies à sa mémoire furent organisées à titre privé. C'est aussi pourquoi mon père n'a jamais reçu la moindre décoration à titre posthume. Remarquez, les médailles, il s'en foutait royalement. Il a reçu la Croix de guerre et la médaille militaire à la Libération, il ne les portait jamais. Il préférait faire la fiesta avec ses amis du maquis. Mais quand même. À ce jour, officiellement, mon père n'est pas mort en service.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur pour la terre, mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge en partageaient mon bonheur. Et oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie, la douleur. La douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Retour à Lyon, à la montée de l'observance sur les lieux du crime. Il n'y a même pas une plaque à son nom. Je n'en vois pas. Ah si, là-bas. Oh non, c'est une plaque pour un résistant. Un autre résistant. Et on voit, ici, le 16 août 44 a été lâchement abattu par les Allemands, le patriote Lucien Barthélémy. Français, souviens-toi. L'enquête policière a désigné trois hommes, Jean-Pierre Marin, Michel Lamouret et Robert Alfani. Mais ils n'ont jamais été interpellés. Comme nous l'a raconté Yves Boisset, Marin est tombé sous les balles de la police en 76, il ne parlera plus. Et les deux autres, ils sont toujours vivants. Ils ont toujours proclamé leur innocence. La justice ne les a jamais inquiétés pour l'assassinat du juge Renaud. Lamouret a été condamné à 30 ans de prison pour une série de braquages avec fusillade. Il est sorti en 2010. Et Alfani, j'ai son numéro de téléphone, mais il ne répond pas. Il ne veut plus entendre parler de cette histoire. On essaie encore ? On essaie encore. Ça sonne. Ça sonne, mais personne ne répond. C'est comme si un téléphone sonnait en vain depuis presque 40 ans, dans le ciel lyonnais. Et finalement, ça répond. Allô, bonjour. Nous faisons une enquête qui concerne le sac. Nous aimerions poser quelques questions à Charles Pasqua. Je suis son collaborateur. Pouvons-nous prendre rendez-vous avec lui ? Envoyez-moi un mail, je vous répondrai. Et Colomba et Davodo continuent leur enquête et leur rencontre. La Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la guerre d'Algérie. On s'en rend plus vraiment compte aujourd'hui, mais le sac, il est finalement assez central dans l'histoire de la France récente. Exactement. Il a germé dans le climat de violence légitime de la résistance. Pour certains de ses membres, il a ensuite pu être perçu comme un moyen de prolonger cette fraternité d'armes avant de complètement dériver. Tu veux dire que pour cela, après la libération, revenir à une vie normale et renoncer à cette violence légitime fut quelque chose de difficile. Voilà. Il y a aussi l'anticommunisme de l'après-guerre. Le SAC affronte le service d'ordre du Parti communiste, qui ne fait pas dans la dentelle non plus. La violence du SAC est en quelque sorte légitimée par la peur du péril rouge. Il règne dans ces milieux-là une vraie crainte d'invasion soviétique. Et puis, on l'a vu, cette violence n'est pas inutile au pouvoir gaulliste. Pour faire le sale boulot en Algérie, contre le FLN, puis contre l'OAS. Plus tard, en mai 68, le SAC s'avère un appui dont il serait idiot de se priver en cas de coup dur. C'est vraiment une spécificité française, non?
Oui, l'histoire du sac est indissociable de celle du gaullisme. Elle est donc liée à celle de la 4e et de la 5e République.
Ouais, c'est donc une partie de notre histoire à tous. Mais le sac n'est pas monolithique. En fait, il y a des sacs. D'un côté, une vitrine que le pouvoir gaulliste voudrait la plus présentable possible. Et de l'autre, des officines travaillant dans l'ombre de l'État, traquant les opposants. Et on les voit qui sont arrivés à une porte. On y est !
Quand en 81, la gauche arrive au pouvoir, ce sont justement ses opposants qui arrivent au pouvoir. Les yeux et les oreilles de l'État, ce sont les renseignements généraux, un service de police stratégique. Et donc, en 81, le patron des renseignements généraux, que l'on appelle les RG, le patron des RG change en 81.
Monsieur Roux, c'est Benoît Colombat et Étienne Davodeau.
Oui, premier étage.
Et c'est Paul Roux qui fut nommé à leur tête par François Mitterrand en 1981.
Bonjour, monsieur. Je suis content de vous voir.
Mai 2014, il a pris sa retraite dans un coin tranquille de la banlieue parisienne. Il nous reçoit chez lui.
Je suis content, mais en même temps, je suis triste.
Ah ?
Parce que je me suis auto-perquisitionné et je n'ai rien trouvé.
Entrez quand même. Il a 88 ans.
Ce serait bien la première fois que les renseignements généraux ne trouvent rien, plaisante Davodeau.
Pourtant, j'ai cherché. Sérieusement, hein ? J'ai remué ma cave, j'ai trouvé pas mal de papiers qui m'ont rappelé quelques souvenirs. Et tout en fouillant, je m'interrogeais. Pourquoi n'ai-je pas de dossier sur le sac ?
Et alors ?
Eh bien, tout simplement, parce que moins on écrivait sur le sac, mieux on se portait.
Ah !
Oui, on procédait plutôt par messages verbaux. On ne faisait pas trop de papier, tant que le sac occupait le devant de la scène. C'est exactement notre sujet. Pouvez-vous commencer par nous expliquer votre parcours jusqu'à ce poste ?
J'ai commencé dans un commissariat de quartier, à la police judiciaire. Puis je suis entrée au RG en 57. J'étais de gauche, je ne le cachais pas, mais ça n'a jamais interféré dans mon travail. Le canard enchaîné me chatouillait un peu de temps en temps pour me faire parler. Il faut dire que tous les matins, j'avais un paquet d'écoutes téléphoniques gros comme ça sur mon bureau.
« Un trésor !» dit gourmand Colomba.
« Oui, mais je n'ai jamais rien laissé sortir, je faisais mon boulot. Vous dites que vous étiez de gauche. Vous pouvez nous en dire plus ?»«
J'étais membre du Parti socialiste, mais j'étais un membre parmi tant d'autres. » On réfléchissait juste sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer la police si un jour on arrivait au pouvoir.
En 67, je deviens le patron de la 2e section des RGPP.
RGPP, qu'est-ce que ça ?
Les renseignements généraux de la préfecture de police de Paris. Une structure importante, avec une centaine d'inspecteurs. On s'occupait des partis politiques, du parti radical jusqu'à l'extrême droite. On a coutume de dire que la 2e section des RGPP était à l'époque un relais du SAC. Du temps de Jean Caille, mon prédécesseur, il y avait des contacts. Avec moi, ça s'est arrêté. Une fois le patron du SAC m'a invité, il voulait voir la gueule que j'avais. J'étais censé être un ennemi, évidemment.
Pierre de Bizet.
Oui. Quand le directeur des RGPP m'a nommé à la 2e section, il m'a dit que ça ne le gênait pas que je sois de gauche. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, pour surveiller la droite, il vaut mieux avoir un gars de gauche.
Mais après que je l'ai remplacé à la deuxième section, Jean Caille a gardé des attaches avec certains de ses membres dans mon dos. Des relais importants? Ah ben je comprends, il actionnait ça clandestinement. Alors, est-ce que des gars à moi ont continué à informer le SAC sans que je le sache? Parce que j'étais un ennemi?
C'est possible, je ne sais pas.
Comment décrivez-vous cet activiste clandestin du SAC vis-à-vis des RG? Dans les années 70, un collègue qui bossait à la direction centrale des RG avait ses enfants dans la même école que les miens. On s'est connus comme ça. Il m'a expliqué que son patron, le directeur central des RG, était le contact officiel du SAC. Il ne se cachait même pas. Le SAC apportait à la police des informations sur les gauchistes et les prétendus terroristes internationaux. Quelquefois, ça revenait vers moi, et je me demandais « Merde alors, où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça ?» Peut-on dire qu'à cette époque, le SAC et les RG travaillaient main dans la main? À mon niveau, non, car j'étais persona non grata. Mais au-dessus, oui, ça c'est sûr. Par mon personnel fidèle, je recevais des dossiers impliquant le SAC. Des extorsions de fonds, des menaces de mort. Mais tant pas pour vrai qu'il était très présent dans ma hiérarchie, le SAC, je gardais ces dossiers au chaud dans mon coffre-fort en attendant que la dite hiérarchie change. Attendez, vous êtes en train de nous expliquer que des policiers républicains vous transmettaient des informations sur des affaires criminelles impliquant le SAC et que vous les mettiez au coffre parce que vous étiez persuadé que si vous les donniez à vos supérieurs, elles seraient étouffées?
Oui, tout ça serait retourné d'où ça venait.
Et ce changement s'est produit un jour?
Oui. Roger Chex, un gaulliste pur et dur, est arrivé à la tête des RGPP. Il m'a demandé « T'as pas des tuyaux sur les abominations du SAC ?» Alors j'ai ouvert mon coffre. Quelques mecs ont pris 3 ou 4 ans de prison.
C'était quand ça ?
Je ne sais plus exactement.
Et Colomba précise, Chex est arrivé en 1972, alors que le ministre de l'Intérieur était Raymond Marcellin, je crois.
C'est ça!
Marcellin était un centriste, pas un gaulliste, et en 69, sous Pompidou, ils avaient envisagé la dissolution du SAC. Mais ils se sont contentés d'éliminer les truands les plus voyants. Pourquoi Marcellin n'est-il pas allé au bout de cette initiative, selon vous?
Et le pauvre octogénaire soupire. Personne ne va jamais au bout de rien.
Il y a une autre question qu'on se pose, monsieur Roux. Comment se finançait le SAC? Certainement pas grâce aux seules cotisations de ses adhérents. D'où venait cet argent? Lors de certaines grèves, des industriels appelaient le SAC à la rescousse. Ils venaient rétablir l'ordre, contre rémunération, bien sûr. Mais il n'y avait pas que ça. Ils recevaient de l'argent d'un ministère, celui de l'Intérieur, je suppose, sur le budget des frais de police.
De l'argent de l'État?
C'est sûr, de l'argent sans contrôle. Moi, à mon niveau, si un fonctionnaire me disait qu'il avait récupéré un informateur, je lui donnais de l'argent. Mais qui vous le donnait, à vous, cet argent?
Le directeur de la police nationale.
Ça veut dire que l'État sponsorisait le SAC?
Si un ministre donne de l'argent, ça veut dire que le Premier ministre est d'accord, et le Président de la République aussi.
Ta-da, 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 ta-da.
Arrive Madame Roux.
« Bonjour, madame. »
Et Monsieur Roux qui la rassure. « Je fais une conférence de presse. »«
T'as des choses à dire ?»«
Il me torture un peu. »«
Il m'extorque des aveux. » »« Comment procédez-vous ? Quand prenez-vous la tête des renseignements généraux en 81 ? Vous faites des infiltrations ?»«
Oui. » Quand je pouvais, j'infiltrais des hommes à moi dans ces mouvements.
Et ces mouvements,
on s'occupait du sac, mais aussi des groupes fascistes, des séparatistes alsaciens ou bretons, des choses comme ça. On recrutait aussi des informateurs au sein des groupes.
Et puis, dès juillet 81, a lieu la tuerie d'Auriol, où un responsable du SAC et sa famille sont massacrés par d'autres membres du SAC. Ça a entraîné la dissolution immédiate du mouvement. Bien sûr, on reviendra en détail sur cette tuerie. Les membres du SAC n'étaient plus très nombreux et désormais hors la loi. Mais ils ont continué à sévir. On montait des écoutes, on faisait des photos. Je rendais compte de tout ça au ministre de l'Intérieur. Ils vous semblaient encore dangereux ? Ils ont quand même démontré qu'ils pouvaient tuer des gens. Ils se cachaient et on les identifiait. Et on les surveillait. Ce n'était pas facile. J'ai quitté la tête des RG fin 83. Ils étaient toujours là. Et ensuite, vous avez fait quoi ? La cellule antiterroriste de l'Élysée ne m'aimait pas. J'ai donc été nommé directeur de l'inspection générale de la police, puis préfet.
C'était quand ?
En 86.
Ah, juste avant la cohabitation, le retour de la droite au pouvoir.
Et le retour de Charles Pasqua, ancien vice-président du SAC, qui devient ministre de l'Intérieur.
Oui. J'ai exercé mes fonctions pendant 3 mois. Puis j'ai été remis à la disposition de mon corps d'origine. Je me suis donc retrouvée commissaire divisionnaire, comme 15 ans plus tôt. L'âge de la retraite pour un commissaire divisionnaire, c'est 58 ans. J'avais 59 ans et demi. J'avais témoigné devant la commission d'enquête sur le SAC. J'étais socialiste. « Retraite !» De 69 à 86, de Pasqua à Pasqua, en quelque sorte. Vous avez toujours été pris en étau par ces réseaux. Il y en a qui auraient fait comme des déprimes, comme en 86, quand j'ai été virée.
Pas vous ?
Non, moi, j'ai une nature heureuse.
Dans vos archives, quelques photos de l'époque où vous étiez au RG. Je dois avoir quelques trucs. Attendez. Je vois que vous continuez à suivre tout ça. Un article sur François Duprat et le Front National. François Duprat fut numéro 2 du Front National. Il est mort dans l'explosion de sa voiture en 1978.
Ah ben, Duprat, c'était mon informateur.
C'était votre informateur ?
Ben oui. Il venait me voir, je lui filais de l'argent, un peu, pas trop, et il me balançait des infos. Ça me permettait de connaître l'activité du Front National à cette époque. Le Pen ne visait pas l'Élysée, il faisait des conneries dans la rue.
À votre avis, qui a tué Duprat ?
Sûrement le gars qui a mis de l'explosif dans sa voiture.
Tiens, sur celle-là, sur cette photo-là, je suis avec Maurice Papon, qui fut préfet de police de 58 à 67.
Et Colomba, je peux la photographier ?
Non.
Déjà qu'avec votre truc-là, je ne vais pas me faire des amis. J'espère que vous n'allez pas en vendre beaucoup. Tiens, celle-là, vous pouvez la photographier. Je suis avec Brejnev et Giscard.
Merci à vous.
Oh, c'est de la petite histoire, hein? Dans la grande histoire. Vous m'avez rajeuni. Au revoir, monsieur Roux.
Et ce chapitre se termine par un gros plan sur la photo de monsieur Roux avec Brejnev et Giscard. Et là, on admire le talent fantastique de Davodeau. Voilà, pour aujourd'hui, vous en savez assez. On continuera, je pense, la semaine prochaine. Merci de votre écoute.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle, puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis